C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, depuis les marches de l'escalier de la vérité, nous assistons à une guerre médiatique hors norme. Menaces d'attaque annoncées à l'avance par certains qui furent écartés et dont on ne prit pas les avertissements au sérieux par sentiment de supériorité ou par calcul cynique, la tragédie prélude à l'action militaire à Gaza ne fut pas une fatalité, même si elle est vendue comme telle. Le 23 septembre 2023, quelques jours avant l'attaque du 7 octobre, Netanyahou exhibait à la tribune des Nations Unies une carte sur laquelle Israël avait absorbé les territoires palestiniens. On essaya de nous persuader par la suite que le Hamas était parvenu à creuser 500 km de tunnels à 30 mètres de profondeur et à utiliser pour cela du matériel de forage importé, des systèmes d'aération en nombre anormal importés eux aussi, ainsi que des quantités colossales de béton, sans que jamais les services israéliens n'en aient eu vent. Quant aux millions de mètres cubes de terre excavés et pendus sur 20 ans de durée, pas un soupçon non plus. Idem pour des quantités impressionnantes d'armes de poing et de roquettes, un armement provenant souvent d'Ukraine, entré impunément malgré les scanners israéliens. Peu crédible. Le New York Times prétend sur la base d'un rapport du 30 novembre 2023 que Netanyahou était prévenu depuis un an. Ron Barr, le chef du Shin Bet, l'agence de sécurité israélienne, affirme qu'il avait averti Netanyahou 10 semaines avant le 7 octobre. Avi Gil, secrétaire militaire de Netanyahou et général de division, en poste avant et lors de l'attaque, signala des tentatives de falsification des documents de prise de décision, puis fit valoir ses droits à la retraite. Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, depuis sa planque de Miami, agonisa les militaires coupables de toutes les insuffisances. Des règlements de compte entre le Shin Bet et l'équipe Netanyahou se multiplièrent. Il y eut des arrestations, des cascades de démissions et la découverte que l'on avait falsifié les heures de communication de Netanyahou après l'attaque afin de le dédouaner. Depuis le 7 octobre, Bibi se sert de l'attaque pour faire reporter son procès pénal personnel pour corruption au nom de l'Union nationale face à l'ennemi et en soutenant que la sécurité ne serait pas assurée s'il comparaissait dans un tribunal, puisqu'un drone du Hezbollah, en son absence, a frappé son domicile privé de ses arrêts. Après le désastre du 7 octobre, il fallait reprendre la main. Les accusations d'atrocités perpétrées par le Hamas ou par des groupes intervenus en soutien se multiplièrent. Des vidéos circulaires de jeunes femmes violées embarquées sur des pick-up. Des témoignages recueillis. On parla de vidéos réalisées par les agresseurs et balancées sur les réseaux puis effacées. Les récits faisaient état de sévices plus abominables les uns que les autres, de femmes mutilées, retrouvées avec des ciseaux dans le vagin. 2 semaines après les faits paraissent les premiers témoignages. Qui les porte? Des soldats et soldates de l'armée israélienne. Le gouvernement de Tel Aviv confirme, la priorité ayant été l'identification des corps, ce n'est qu'après coup que l'on procède à l'enquête sur les viols présumés. Ces viols sont rapportés par des témoins, les preuves médico-légales mettront du temps. C'est Lava 433, le FBI israélien, qui investigue. Aucune victime encore vivante ne déclare avoir été violée. On ne recueille que des déclarations de témoins, de membres des familles, et on marche sur des œufs car on craint pour des sévices sexuels de représailles sur des femmes enlevées et prises en otage. La police recueille 1500 témoignages, dont ceux des secouristes et des femmes chargées de préparer les corps avant enterrement. On parle également de 60 000 vidéos. Seulement, certains témoignages sont mensongers, notamment ceux provenant de membres de Zaka, ONG israélienne. La BBC met en doute. Et même des médias israéliens sont dubitatifs. Ils n'ont pas tort, car les fakes se multiplient. Le responsable de Zaka pour la zone sud décrit avec force détail un cadavre de femme enceinte dont l'utérus a été déchiré et le fœtus poignardé. Or, il reconnaîtra après coup n'avoir aperçu qu'une femme un peu grosse, un câble électrique et quelque chose de brûlé et de non identifiable, sauf que ces déclarations seront reprises comme argent comptant. Une adolescente déclarée retrouver le pantalon baissé après viol n'avait été accidentellement déshabillée que pendant son transport par l'armée israélienne. L'avocate Michal Herzog, épouse du président Isaac Herzog et donc première dame d'Israël, fulmine dans une tribune de Newsweek contre le silence des instances internationales et se réfère à une vidéo attribuée au Hamas et qui est en fait l'œuvre d'un cartel mexicain de drogue. Vont s'ajouter le témoignage d'une survivante du festival, puis d'un autre festivalier. Viol avant et après assassinat, mutilations sont relatées. Cette guerre est avant tout une guerre de communiqués et de communication dans tous les domaines. Israël fait visionner des vidéos d'atrocités filmées en direct par les assaillants du 7 octobre. Il y aurait eu 3 vagues d'attaquants, des soldats du Hamas, des conscrits amateurs et des civils gazaouis, certains employés chez des juifs et participant à la curée. Une femme politique britannique, Alex Phillips, évoque ce qu'elle a vu sur ces vidéos. Elle parle d'hommes tranchant des têtes, massacrant des enfants en pleurs, mutilant des corps, mettant le feu à des victimes, célébrant au téléphone avec leurs proches le nombre de tués. On leur demandait de ramener des têtes pour que les gens puissent jouer avec, et ils obtempéraient en découpant les cadavres au cran d'arrêt. Les otages entassés dans les pick-up recevaient des crachats. Une évocation survenue le 21 octobre 2025, 2 ans après l'événement, ce qui est surprenant. Des projections avaient eu lieu dès le 13 octobre 2023, 48 minutes de montage d'après de multiples sources, dont celle du Hamas. Mais les visions d'horreur en direct étaient réservées à des élus et à des journalistes. Le but, frapper de sidération, dénoncer la barbarie. Le grand public en était exclu, lui qui s'abreuve sur les réseaux et les chaînes à péage de séries ultra-violentes.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Parfois, certaines désinformations sont une ressucette de vieilles recettes éprouvées. Les bébés dans les fours du 7 octobre rappellent irrésistiblement les couveuses du Koweït. Le média israélien I24 est le premier à annoncer que des bébés ont été décapités, reprenant les dires du président du conseil régional de Shomron ainsi que ceux du vice-commandant de l'unité 71 de Tzahal. Netanyahou va reprendre l'histoire au vol. Ce sont 40 bébés décapités et incendiés. Joe Biden relaie l'info. L'événement en question, aussi atroce ait-il été pour les victimes, trouve pas mal de similitudes avec Pearl Harbor et le 11 septembre. Images transmises de victimes juives tuées pour certaines par des tirs de blindés et d'hélicoptères de Tsahal selon la doctrine Hannibal qui privilégie l'extermination des preneurs d'otages à la survie des 10 otages, sauf que la directive s'applique à des otages militaires uniquement, mais fut ce jour-là appliquée à ces civils. Qui en donna l'ordre ? Sur les réseaux sociaux, justement, se succèdent des photos de jeunes filles fauchées lors de la rave party. Défilent aussi leurs pendants palestiniens, 250 journalistes exécutés par des snipers israéliens puisque prétendus travaillant pour le Hamas, dont un correspondant d'Al Jazeera, lauréat du prix Pulitzer. Et pour justifier l'injustifiable, se crée une cellule dite de légitimation dont la mission secrète, mais dévoilée par le site Plus 972, est de diffuser de la propagande, Hasbara en israélien, afin de rendre présentables et totalement justifiées les pires atrocités et de ne pas couper l'alimentation en armes et finances du régime de Netanyahou. Tout faisant ventre, un journaliste d'Al Jazeera fut préventivement accusé d'être un soldat du Hamas avec des informations laissant supposer qu'il l'était déjà à l'âge de 10 ans. Les médias européens de premier plan, Bild, la BBC et d'autres, relaient la justification israélienne du permis de tuer, passant l'éponge sur un point de détail, le nombre de journalistes exécutés dans la bande de Gaza est supérieur à tous ceux tombés durant les deux guerres mondiales, la guerre de Corée, celle du Vietnam, celle de Yougoslavie et celle d'Afghanistan réunis, une hécatombe dont tout le monde se contrefout. L'Occident doit croire à tout prix à la légitimité du petit État menacé qui se défend contre les barbares et qui, par ricochet, est notre bouclier. Paradoxalement, plus les tueries de civils sont massives, systématiques et revendiquées, comme par le général de division Aharon Aliva, déclarant que pour chaque mort du 7 octobre, 50 Palestiniens doivent mourir, peu importe qu'il s'agisse d'enfants, plus le carnage se poursuit et plus l'Europe subit sur son sol des attaques au couteau sur sa population. Toute tentative d'incriminer l'équipe Netanyahou dans nos médias se heurte immédiatement à la question « Condamnez-vous les attentats du 7 octobre ?» La coopération avec Tel Aviv va parfois très loin, puisqu'en 2024, des militants de Palestine Action, qui avaient investi les locaux d'une usine Elbit pour y détruire 4 quadricoptères utilisés comme drones anti-civils à Gaza, furent condamnés pour actes de terrorisme, tandis que dans le même temps, la Grande-Bretagne, cornaquée par les Israéliens, les autorisait à venir sur son territoire sous le couvert de missions spéciales, permettant d'échapper à des mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre. Quant à la France, menant le double langage habituel, elle permet à une ONG Tipat Mazal de recevoir des dons défiscalisables servant à défaut d'un objectif humanitaire très nébuleux à acheter en fait de l'équipement pour les soldats de Tsahal. L'État d'Israël, quoi qu'il s'en offusque et bien que nos médias s'en indignent, coche 4 des 5 cases définissant un génocide. Meurtre de membres du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Comme par ironie macabre, des vols espions britanniques survolant Gaza furent témoins de l'assassinat de bénévoles de Grande-Bretagne montant des tentes pour des réfugiés palestiniens, ainsi que d'une autre frappe visant des médecins anglais d'une organisation caritative, mais Londres refusa et de condamner et de commenter. Une gamine de 5 ans, Inj Rajab, recevant 335 balles tirées par un char israélien, des communiqués quotidiens listant le nombre de civils morts et blessés, abattus certains par des tirs dans le dos quand ils s'en revenaient d'une queue de ravitaillement hypothétique, alternant avec des films où l'on découvre des colons israéliens jetant à terre une grand-mère de 70 ans qui cueillait des olives, tronçonnant des oliviers, détruisant des maisons, et des soldats de Tsahal travestis avec des sous-vêtements féminins pillés dans des maisons abandonnées, ou des civils juifs allongés sur leur terrasse en buvant leur coup tout en admirant en direct le soleil qui se couche sur Gaza bombardé, tout cela fait désordre et rappelle que nous avons affaire à un État aussi criminel qu'il est permis de l'être. Bien entendu, en face, le Hamas ne peut que se frotter les mains. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, la guerre de communiqués se poursuit tous azimuts, nous le constaterons lors de notre prochaine rencontre.